Alors je promenais mon regard sur la liste des titres des leçons de Un corps en miracle. Et puis mes yeux s'arrêtent sur Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Et je ressens profondément que c'est vrai, cette leçon. Que lorsque je cherche à atteindre la vérité, je déclenche un processus en moi, un processus de réveil, qui peut sembler graduel, hein, qui peut sembler prendre du temps. Mais en vérité, quand je cherche à atteindre la vérité, j'appelle à l'aide, hein, c'est une manière d'appeler à l'aide. Je veux me rappeler de qui je suis. Et comme ce désir est puissant et cette intention est puissante, assurément, il est servi, ce désir. Et des occasions multiples de me rappeler de la vérité me sont fournies. Et pourquoi je cherche à atteindre la vérité? Parce que, immanquablement, dans cette vie d'illusion, dans cette vie où... l'ego semble diriger les choses. Il y a beaucoup de choses insatisfaisantes qui se révèlent avec le temps, avec l'expérience, avec l'âge, avec tout ce voyage que nous faisons sur la planète, se révèlent profondément insatisfaisantes. C'est des petits bonheurs temporaires. Ou des chemins illusoires qui finalement ne mènent pas au bonheur. Et à un moment ou à un autre, et ça peut prendre plusieurs vies, mais à un moment ou à un autre, il y a la question qui se pose, qui suis-je? Ça, c'est une question importante. Pourquoi je suis là sur Terre? À quoi elle sert ma vie? Et il y a aussi ce désir profond, je veux être heureux, qui est là tout le temps, mais il se manifeste à un moment plus fort parce qu'il y a beaucoup de voies qui ont été explorées, que j'ai explorées, qui ne m'ont pas rendu heureux. Les séparations qui tournent au drame, ça je suppose que vous connaissez aussi. Les relations qui commencent dans l'euphorie, qui se terminent dans la haine, ou d'autres émotions. L'argent qui manque et puis qui procure le désespoir. L'argent qui afflue, mais qui ne fait pas une raison de se sentir vivant. Hein, de vraiment être complet, entier. Et la vérité est complète et la vérité est entière. Et l'argent ne me procure pas ce sentiment de plénitude. Il y a beaucoup de personnes qui gagnent au loto et puis en un an, il n'y a plus rien. Et sont aussi malheureuses avant qu'après. Ou qui des gens très riches qui se suicident parce que ça il y a des choses que l'argent n'achète pas et entre autres le bonheur c'est un chemin et c'est pas avec une facture ou un objet qu'on va chercher dans un magasin avec des sous. Donc, nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. Pour moi, c'est le début de la fin du rêve, cette phrase. Et l'appel à m'éveiller, il est en moi, il est engrammé. Et il est dit, tu t'éveilleras à ton propre appel parce que l'appel à t'éveiller est au-dedans de toi. Et cet appel, il se manifeste de temps en temps... dans une vie, lorsque j'ai épuisé toutes les autres possibilités que m'offre l'ego pour être heureux. Et en vérité, ce sont des bonheurs assez provisoires. Et en vérité, je peux constater que tout ce que j'ai jamais essayé ne m'a pas rendu profondément heureux. M'a rendu heureux momentanément. Pourquoi ? Parce que si je fonde mon bonheur sur le fait d'avoir une compagne, alors, voilà, un jour, elle me rend heureux, le jour d'après, elle me juge, ou elle m'envoie balader, ou je l'envoie balader, et ma perception du bonheur s'effondre ou change. Parce que ça devient dépendant de quelqu'un dans ce niveau-là de perception. Et la vérité ne fait pas appel à quelqu'un d'autre, hein, puisqu'il y a seulement un dans ce niveau-là de l'unité. La vérité, elle est forcément en moi, puisqu'il y a seulement l'unité. Vous êtes assis sur le trésor que vous recherchez. Donc c'est puissant et j'ai besoin d'aller chercher beaucoup à l'extérieur avant de chercher au seul endroit où mon bonheur se trouve, c'est-à-dire dedans, à l'intérieur. Et de me rendre compte que tout ce que je vois à l'extérieur est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Si je vois un monde en guerre, c'est qu'en moi il y a le conflit, il y a du conflit, il y a de la guerre et que je le projette à l'extérieur. Parce que je peux voir un monde apparemment en guerre sans être intérieurement en conflit. Et à ce moment-là, je peux rester tranquille avec ça. Donc, comme est distordu mon esprit, comme sera distordue la réalité que je crois voir. Bonne nouvelle, parce que dans ce cas de figure, il y a une seule chose à corriger, c'est comment je vois les choses. Ça dépend plus de mon compagnon ou de ma compagne, ça dépend plus de l'argent que j'ai, ça dépend de ma vision. Et un cours en miracle est un outil pour changer de vision, essentiellement. Et changer de vision, c'est le sens du pardon véritable également. Donc quand je cherche à atteindre la vérité, je ne peux pas échouer parce que ça m'amènera forcément dans mon centre, à l'endroit où je peux me sentir uni avec tout et à l'endroit où je peux voir les choses différemment, ce qui est le premier des miracles, premier des outils qui, même s'il est illusoire, est un outil qui nous sert à revenir à l'unité, à cesser le rêve. Pourquoi il est illusoire ? Parce que dans l'unité, il n'y a pas besoin de pardonner. Tout est un et il n'y a aucune distorsion. Donc le pardon, c'est changer de vision et me rappeler que ce que je crois que mon frère a fait, en fait, ne s'est pas produit. Alors bien sûr, depuis le point de vue de l'ego, c'est difficile ou même impossible. Puisque je suis certain que ça s'est produit avec l'ego, hein, puisque je suis aussi certain qu'il est séparé de moi. Et je suis certain que je suis victime et qu'il est mon bourreau, il ou elle. Donc depuis ce niveau-là, tout semble me donner raison dans le rôle de celui qui ne pardonne pas, qui a des rancœurs, ou qui simplement se dit « ça s'est produit hein. ». C'est parce que je crois que ça s'est produit que je ne peux pas pardonner. Et pourquoi je crois que ça s'est produit ? Parce que je crois à l'illusion. Je crois que les choses sont séparées les unes des autres, les corps aussi, que le monde est réel, le monde que je vois, la planète, l'humanité. Voilà, changer de vision, c'est le début du retour à la maison. C'est-à-dire, revenir à une vision d'unité, les choses sont une, mais comme je ne sais pas le faire de moi-même, je demande de l'aide et je reviens à l'humilité. L'humilité, c'est, pour l'instant, je ne crois avoir que l'ego pour aborder les problèmes mais en vérité, j'ai aussi l'esprit qui n'attend que mon bon vouloir, le pur esprit, l'esprit vrai, hein, l'esprit non divisé en moi, l'esprit plein, l'esprit de vérité, qui attend que je demande à voir les choses vraiment, en vérité, plutôt que illusoirement. Et le pardon peut, dans ce cas-là, être simplement demandé à l'esprit. Montre-moi les choses telles qu'elles sont. Hein? Rappelle-moi que ce frère, c'est un miroir que j'ai placé en face de moi pour m'aider à voir les choses vraies. Si je suis perturbé, je vais voir la perturbation à l'extérieur. Donc le miroir me reflète parfaitement la vérité. Ma vérité, ma perception. Si je suis en paix, ben je verrai la paix aussi. Et donc, c'est un très beau baromètre, le frère, la sœur qui est là, qui active ma réactivité, qui pousse sur le bouton de la colère, ou de la peine, ou de la tristesse, jusqu'à ce que je me rende compte que si je réagis comme ça, c'est que ma vision est erronée ou distordue et que je pourrais choisir la paix au lieu de cela. Et je peux demander à ce que l'esprit me guide pour penser autrement, pour avoir des pensées justes, des pensées d'amour. Parce que l'ego n'a pas de pensée de véritable amour. L'ego a des pensées d'amour conditionnelles. Je t'aime si tu t'éloignes pas trop de moi. Au-delà de 10 mètres, je t'aime plus. Au-delà d'un partenaire, je t'aime plus. Et le partenaire, c'est moi, bien sûr. Il n'y a aucune liberté. Hein. Ce n'est pas un amour, c'est une cage de prison. Où il y a une apparence de liberté. Comme quand nous vivons dans une apparence de démocratie. Donc, c'est comme le Canada Dry, hein, ça a la couleur de l'amour, ça a le reflet de l'amour, ça a les bulles de l'amour, surtout au début. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'amour conditionnel. Hein. C'est-à-dire une forme de prison que j'ai soigneusement élaborée pour faire croire à l'autre que je l'aime. Mais en fait, ça dit, j'ai besoin de toi, aime-moi, montre-moi que j'existe. Et donc, c'est de la parfaite manipulation. Alors au début, il y a les endorphines qui nous disent autre chose, bien sûr. Ça, tout ça, c'est planifié pour que je sois transporté dans quelque chose d'inoubliable. Mais à un moment ou à un autre, les endorphines redescendent et puis le feu de paille s'éteint. Et je me retrouve avec quelqu'un qui me dit la même chose. Aime-moi et montre-moi que j'existe. Pas dans tous les cas, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a des relations pures et saintes, heureusement. Mais c'est un chemin également pour y aller. C'est parce que je peux voir mon frère ou ma sœur différemment que je peux vraiment entrer dans une relation sainte. Et la relation sainte, c'est celle qui voit les choses pour ce qu'elles sont. Et deux esprits qui ont le même but. Et le but n'est pas d'arriver à quelque chose avec l'autre. Le but, c'est de manifester seulement l'amour et tout le temps l'amour avec l'autre et avec tous les autres. Et il n'y a que ce but. Hein. Et bien sûr que c'est une relation sainte puisque c'est ce que fait Dieu. Donc forcément, c'est une relation pure, hein, vraie. Sainte voulant dire vraie dans ce cas-là. Donc Dieu ne fait que ça, aimer tout le temps et en permanence et dans l'extension. Et quand moi je choisis de ne manifester que l'amour, alors je peux bien sûr me rapprocher de l'unité d'une manière, avec un rythme accéléré, dans le processus apparent que prend le retour à la vérité, à l'amour et à l'unité. Voilà. Ça commence par « Nul ne peut échouer qui cherche à atteindre la vérité. » J'ai besoin de chercher à atteindre la vérité. Si tu es là devant ton ordinateur, tu le fais. Si tu es là autour de cette table, tu le fais. Si tu participes à des groupes de connaissance de soi, de méditation, tu le fais. c'est le début du commencement du réveil, hein, ou c'est le chemin que tu parcours pour suivre cet appel en toi qui dit « Je ne suis pas ce que je crois être, mais j'ai l'intuition de qui je suis vraiment et c'est de ça dont j'ai envie. » Maintenant, le jeu a apparemment assez duré. Il semblerait que je ne m'amuse plus à ce jeu, que je viens d'explorer beaucoup de facettes, et beaucoup de facettes qui sont plutôt sombres dans ce que je crois être le non-amour, qui ne peut pas exister, puisqu'il n'y a que l'amour. J'ai envie de sonner la fin de la pièce, hein, de baisser le rideau et puis de retourner joyeusement dans la maison de mon père. Alors, pour moi, c'est très touchant qu'il y a juste à commencer par un tout petit désir, qui est en fait un très grand désir. Mais il peut se manifester d'une manière que je crois petite. Je cherche à atteindre la vérité. Je veux être heureux ou je veux aimer. C'est la même phrase. Hein. Quand je dis je veux ou quand je dis je suis, c'est une intention extrêmement puissante. Hein. Si je dis je suis dans l'amour, il y a Neil Donald Walsh qui disait chaque fois que vous dites je suis avec quoi que ce soit derrière, vous déclenchez la grande photocopieuse de l'univers qui duplique toutes ses intentions jusqu'à ce qu'elles vous soient servies en abondance. Pourquoi ? Parce que je suis simplement ces deux mots-là, c'est tout ce qui est, je suis. Donc, cette phrase commence par une vérité fondamentale, et donc elle est forcément vraie. Parce que tout ce qui suit, je suis, est vrai, puisque je suis tout ce qui est. Donc je suis heureux, c'est vrai, je suis dans l'amour, c'est vrai, je suis dans l'abondance, c'est vrai, tout est vrai. Donc je le déclare, vous avez quelque chose à déclarer ? Oui, je suis heureux. Donc j'ai cru que j'étais hors de l'amour et ça s'est manifesté, et si je crois que je suis dans l'amour, ça va se manifester aussi, puisque mes intentions sont hyper puissantes. Alors, en effet, j'ai quand même besoin de surveiller mes pensées, puisque dans le monde de l'ego, je peux avoir une pensée qui dit oui, et tout de suite après, une pensée qui annule la première. Hein. Je veux de l'argent, je veux être dans l'abondance. Et puis tout de suite après, ah ouais, mais ça serait trop beau. Et hop, l'univers, qui est la source, tout ce qui est, entend le premier ordre, et puis ensuite entend le contre-ordre, et donc il ne se passe rien, puisque j'ai annulé la commande. Donc, soyons persistants dans notre volonté. C'est ça qui nous est demandé. Être constant dans la volonté. Quand je suis constant, je réaffirme tout le temps la même chose. C'est oui, et c'est oui, et c'est encore oui. Et c'est pour ça que dans notre monde, ben, rien n'est acquis, et on réaffirme les choses. Hein. Dans cette perception-là, hein, parce que dans l'unité, il n'y a rien besoin même d'acquérir. Nous avons déjà tout. Mais dans ce jeu-là, nous avons apparemment besoin de réaffirmer notre désir. Hein. Et le désir sous toutes ses formes. Et le désir, Yeshua disait cette très belle phrase, hein, Yeshua disait, le désir passe par vous, mais n'est pas de vous. Le désir est divin. Le désir, c'est la force qui passe à travers vous et qui fait que vous vous sentez vivant. C'est la sève qui monte dans la tige de la rose et qui font que les pétales se colorent. Sans ce désir, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Donc nous sommes animés, nous sommes un roseau creux à travers lequel Dieu joue sa musique en nous. Et donc nous nous laissons jouer la musique de Dieu. Ou alors nous choisissons de jouer notre propre musique pour jouer à autre chose, pour jouer à une autre partition. Mais ça dure le temps que ça dure, et puis ça donne la satisfaction que ça donne. Et au bout d'un moment, je dis, cette partition, fait chier, hein, la mare. Je la connais. Je la connais par cœur. Donnez-moi autre chose. Je veux pas le menu, je veux la carte. Je veux choisir mes plats. Entrée de l'amour, plat de résistance de l'amour, et puis dessert de l'amour. Et c'est un menu qui grandit tout le temps. Je suis servi, hein, en abondance quand je choisis. Voilà, donc j'ai le désir d'être heureux, j'ai le désir d'aimer, et dans chacun de mes actes, je pose cette signature, hein, comme disait Osho, posez votre signature sur chacun des actes de votre vie. Parce que si je dis oui et que je dis non, et que je redis oui et que je dis non, il ne se passe rien du tout. Je suis persistant. Hein. Et quand je me rends compte que je ne suis pas persistant, eh ben je peux choisir d'être persistant. Parce que ce n'est pas une fatalité. J'ai fait le mauvais choix, ok, ben je fais maintenant, dès que je m'en rends compte, je fais le choix juste, celui qui exprime le désir d'atteindre la vérité et qui ne peut pas échouer, hein, si je suis persistant. Alors l'autre m'aime, eh ben, je suis persistant dans ce désir. L'autre ne m'aime pas, je suis persistant dans ce désir. Ou je crois que l'autre ne m'aime pas. J'ai de l'argent, je suis persistant. J'ai pas d'argent, je suis persistant. Que je ne me laisse pas influencer par des conditions pour être persistant sans conditions. Hein? Donc c'est le début de pratiquer l'inconditionnel. Je suis persistant, quoique apparemment la pièce de théâtre me montre. Et la pièce de théâtre vient tester ma persistance à cet état-là d'amour dont je veux me rappeler. Voilà, donc j'ai aussi le désir d'être persistant dans mon désir. Hein, c'est le même désir, parce que je veux atteindre la vérité, et je ne peux pas l'atteindre un petit peu. Hein. Je l'atteins complètement, je la veux en entier. Je ne veux pas le début de la vérité, je veux toute la vérité, entièrement. Parce que je ne peux pas fractionner Dieu, c'est ce que fait l'ego. Hein. Il semble couper Dieu en petits éclats, en petits morceaux. L'univers, la source, en choses qui devraient être séparées. Donc si je fais ça, ben, je reproduis des fonctionnements de l'ego. Donc ce n'est pas une petite leçon pour moi. Et je peux vraiment dire que dans ma vie, à un moment donné, il y a eu un déclic. Pourquoi je suis là? À quoi sert ma vie? Et j'en ai assez d'être comme ça, pas vivant. Je me sentais pas vivant. Je me sentais très très tourné vers l'intérieur, mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire sans relation avec l'extérieur, sans partage, en protection avec des barrières très fortes, une timidité mais énorme qui fait que chacun représente un danger, représentait un danger pour moi. Et ça m'a amené à des situations où la cocotte minute étant tellement sous pression que un mot, un geste, et ça explose. Et l'autre comprend pas pourquoi je lui sers une douche froide à ce moment-là. Et là, je vais voir une thérapeute en disant, ben, je suis très énervé, est-ce que vous pouvez m'aider à me relaxer? Elle m'a dit oui, bien sûr. Et ça a duré 7 ans. Alors j'étais venu pour une seule séance. Hein. Et à la première ou à la deuxième, parce que la première, j'étais très frustré, parce qu'elle dit, si on est d'accord tous les deux, ok, rendez-vous dans une semaine, et on commence. Et on n'avait rien fait du tout. Donc j'étais venu pour me relaxer, je suis parti encore plus énervé. Mais c'était une petite farce de l'univers. Mais une semaine plus tard, ou un petit peu plus tard dans le processus, je ne me rappelle plus, j'ai dit cette phrase qui a été la locomotive de mon réveil. J'ai dit, je ne veux pas terminer ma vie comme ça, ça suffit. Ça suffit, à vie, tu ne vas pas finir comme ça ta vie. Tu as assez joué à ce jeu de la protection. Maintenant, ouvre les yeux et va vers le monde. Et là, ma thérapie a été à toute vitesse. Vraiment, c'était la locomotive. Et c'est quoi, j'en ai assez? C'est le désir de chercher la vérité. c'est pas, c'est, je me reconnaissais plus dans le avis intériorisé, dans l'avis timide, dans le avis qui a peur de l'autre. Ça ne me représentait plus, même si c'est ce que je vivais encore. J'ai dit, il y a autre chose. Il doit bien y avoir une autre voie, comme disait Hélène Schuckmann. C'est vraiment, quand j'ai dit ça, je pense que c'est la première fois que j'ai appelé vraiment l'esprit à l'aide. Et j'ai été servi, mais en abondance, vraiment en abondance dans ma vie. Voilà, j'ai vraiment envie de terminer sur cette phrase.